BW. Vue d'Allemagne.
Il y a 80 ans, en septembre 1939, l'invasion de la Pologne entraînait l'Europe puis le monde dans la guerre. Retour dans ce numéro de Vue d'Allemagne sur les bombardements de Wieluń et de Danzig, considérés comme point de départ du conflit le plus meurtrier de l'histoire. Dans la deuxième partie de ce magazine, on parlera d'une autre invasion, celle du nord de Chypre il y a 45 ans par l'armée turque. Alors que les négociations piétinent en vue d'une réunification de l'île, les jeunes chypriotes grecs et turcs en ont assez d'attendre. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen et bienvenue. C'est le bruit de ces sirènes placées sur les bombardiers de la Luftwaffe et surnommées trompettes de Jéricho qui réveille le jeune Jan Titzler au petit matin du 1er septembre 1939. Il est 4h30, 5 minutes plus tard, une pluie de bombes s'abat sur la petite ville polonaise de Wieluń. Jan Titzler a alors 6 ans, ce lundi 1er septembre devait être un jour de fête, il sera celui du cauchemar.
Ça devait être le jour de mon entrée à l'école. J'avais déjà essayé mon cartable pour voir ce que ça faisait d'être un écolier. Mais la Luftwaffe a été plus rapide. Ils ont effectué à 4h35 un exercice, en vérité une attaque sur la ville endormie.
À l'époque, une vingtaine de kilomètres séparent la frontière allemande de Wieluń, une ville de 16 000 habitants située à un peu plus de 200 kilomètres au sud-ouest de la capitale Varsovie. La ville n'a pas d'importance stratégique particulière, pas de carrefour ni de pont à défendre. Seule une poignée de soldats polonais y sont stationnés. De longues heures durant, une centaine d'avions de la Luftwaffe bombardent la ville, la détruisant à 70%. 1200 civils sont tués. Dans la matinée du 1er septembre, Adolf Hitler annonce à la population allemande que l'offensive de la Wehrmacht contre la Pologne a commencé.
La Pologne a tiré cette nuit pour la première fois avec des soldats réguliers. Depuis 5h45, nous ripostons.
Un bel exemple de propagande nazie, car c'est bien l'armée du Reich qui a envahi son voisin polonais et non le contraire, et ce, une bonne heure plus tôt. Dix minutes après le début du bombardement de Wieluń, à 4h45, les sirènes de la Wehrmacht retentissent à 400 km plus au nord. Le cuirassé allemand Schleswig-Holstein ouvre le feu sur un dépôt d'armes polonais sur la presqu'île de Westerplatte, dans la région de Danzig. Officiellement, les nazis ripostent à l'attaque par les Polonais d'un émetteur radio la veille à Gleiwitz. En réalité, un commando nazi a monté cette opération de toutes pièces. C'est le prétexte que cherchait Adolf Hitler pour envahir la Pologne et poursuivre son expansion vers l'Est. Le 23 août, soit 8 jours avant, les nazis avaient conclu un pacte de non-agression avec l'URSS. Pas de menace donc de ce côté-là. Quant à la France et à l'Angleterre, elles ne représentent pas non plus de véritables obstacles, même si les deux pays déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre.
1er września 1939 roku, godzina 4 minut 45.
Après l'attaque de Westerplatte, l'armée allemande envahit la Pologne par le nord, le sud et l'ouest du pays. Ce sera ensuite le tour de l'armée soviétique le 17 septembre. Début octobre, les deux pays se partagent le territoire polonais. L'Allemagne occupe la partie occidentale et la ville de Danzig, tandis que les soviétiques prennent le contrôle de l'est. Plus tard, en 1941, l'Allemagne s'emparera de ces territoires après avoir rompu le pacte avec l'URSS. Le bilan de la Seconde Guerre mondiale est lourd pour la Pologne. 6 millions de morts, dont 3 millions de juifs. Le pays a également perdu les deux tiers de son industrie et la plupart de ses infrastructures. Danzig et Westerplatte ont longtemps été considérés comme les lieux officiels du début de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est à Wieluń qu'ont démarré cette année les célébrations du 80e anniversaire. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier y a retrouvé son homologue André Duda pour une cérémonie à 4h40 du matin.
Ich verneige mich vor den polnischen Opfern der deutschen Gewaltherrschaft.
Il a demandé pardon aux victimes polonaises de la tyrannie allemande, mais il n'a pas abordé la question des réparations réclamées par Varsovie. Le parti PiS au pouvoir en Pologne a pourtant relancé la question au mois d'août. 80 ans après le début de la Seconde Guerre mondiale, Varsovie réclame à son voisin plus de 800 milliards d'euros de compensation pour les dommages subis. Une demande qui a peu de chances d'aboutir, selon l'historien Peter Oliver Löw de l'Institut allemand pour la Pologne.
Aujourd'hui, 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est difficile d'avoir encore de telles prétentions. Tous les avis juridiques sérieux disent que la Pologne n'a pas de marge de manœuvre pour réclamer ses réparations. D'un autre côté, la guerre joue encore un rôle important au sein de la société polonaise. Le pays tout entier a été traumatisé par la guerre et les traumatismes vont jusqu'à la deuxième, troisième génération. C'est pour ça que la politique du parti au pouvoir consiste à aborder les émotions en remettant un sujet comme les réparations à l'ordre du jour. La Pologne est en campagne électorale. Beaucoup de gens se laissent convaincre par de tels arguments et disent « Oh, l'Allemagne doit payer. L'Allemagne est responsable. Nous sommes les victimes. » Mais le fait que ce soit surtout motivé par des considérations de politique intérieure et que cela ait peu de chances d'aboutir, c'est une autre histoire.
Comme d'autres historiens, Peter Oliver Löw estime qu'une compensation symbolique sous la forme d'un mémorial pourrait être un bon moyen de rendre hommage durablement aux victimes polonaises du nazisme. En attendant, tous les ans, à l'aube du 1er septembre, les sirènes retentissent à Wieluń pour marquer le premier crime de guerre de l'Allemagne nazie. On parle encore de l'histoire et de ses répercussions sur le présent dans la deuxième partie de Vue d'Allemagne. Il y a 45 ans, en juillet 1974, l'armée turque envahissait le nord de l'île de Chypre en réponse à une tentative de coup d'État des colonels grecs visant à rattacher l'île à la Grèce. Depuis, 33% de ce territoire européen est toujours occupé par la Turquie et les 82% de chypriotes grecs sont séparés des 18% de chypriotes turcs par un mur de la honte, le dernier d'Europe. Les négociations en vue de réunifier l'île piétinent, mais les jeunes n'en peuvent plus, ils prennent les choses en main. Un reportage de notre correspondant Thomas Jacobi.
Aux dernières élections européennes, un miracle s'est produit à Chypre. Des Chypriotes grecs ont pour la première fois voté pour un candidat chypriote turc devenu eurodéputé, Niazi Kizilyurek. Pour ce professeur chypriote turc, candidat de la liste du parti communiste chypriote grec Arkel, c'est la preuve que tout peut arriver. Nous l'avons rencontré dans le café de la Buffer Zone, la zone tampon entre les deux communautés.
Nous avons la même patrie. Mes électeurs sont d'abord et surtout chypriotes. Le côté grec et turc vient après. C'est la première fois de toute notre histoire qu'on a voté ensemble et non pas chacun au sein de sa propre nationalité. On est les enfants d'un même pays. Dans le fond, c'est une action politique conjointe qui favorise beaucoup le rapprochement et la réconciliation.
Ce rêve d'une prochaine réunification, beaucoup de jeunes ont commencé à le vivre au sein de la Maison de la Coopération, un café où l'anglais est la seule langue commune aux deux communautés, située en pleine zone tampon, qui porte encore les traces de la guerre avec ses maisons éventrées, ses traces de balles sur les murs, et le quartier général de l'ONU présente sur l'île depuis les troubles intercommunautaires de 1963. Mais pour Christina, jeune chypriote grecque d'environ 20 ans, ce café est l'avenir du pays.
De tels endroits aident, car la zone tampon, c'est l'endroit le plus neutre. On est tous chypriotes, pas chypriotes grecs ou chypriotes turcs, mais des chypriotes tout court. Pour moi, c'est l'endroit le plus beau, parce que tout le monde peut venir ici, boire son café, avoir une conversation, et c'est ça, en fait, la solution. Évidemment, sur le plan politique, les choses sont beaucoup plus compliquées, mais pour nous, les jeunes, tout est là, car nous sommes exactement pareils, il n'y a aucune différence.
Ici, on apprend la langue de l'autre, ses us et coutumes. Pour autant, Ali, qui milite avec Christina, aime dire qu'il faut garder les pieds sur terre.
Si l'on prend un peu de recul, on peut constater qu'il y a une façon de penser qui prépare l'avenir et une autre qui t'englue dans le passé et t'empêche d'avancer. Et généralement, à Chypre, il y a ces deux façons de penser, quelle que soit la communauté.
Orestis, la trentaine, fait partie du groupe. C'est le plus impatient. Il y a 2 ans, il annonçait un beau jour, dans ce café même, vouloir entrer dans le No Man's Land de Nicosie, une zone tampon de 346 km², soit presque 4% de la surface du pays, qui sépare de part en part les deux communautés depuis plus de 40 ans. Il l'a fait, nous étions avec lui.
Voilà, c'est aussi simple que ça, mon gars. Tu fais ça et tu entres. Je fais peut-être quelque chose d'illégal, mais illégal aux yeux de qui? De l'armée turque? Oui. De l'ONU? Oui. De la République de Chypre? Oui. Pour eux, c'est illégal, mais c'est ce mur qui est illégal. Il ne devrait pas être là. Ce n'est pas moi qui ai tort. J'ai la conscience tranquille.
Le plus surprenant est que l'armée turque n'a pas tiré. Il y a quelques années, 3 Chypriotes grecs dans pratiquement les mêmes circonstances avaient été abattus. Là, après 1h30 passée dans le No Man's Land, Orestis a juste été cueilli par l'ONU en douceur. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Depuis, il a multiplié ses opérations coup de poing.
J'y étais encore pas plus tard qu'avant-hier. D'ailleurs, j'y suis retourné assez fréquemment. On fait pas mal de choses. On a fait des graffitis. On est entré dans une région militaire turque. C'est facile, surtout à Nicosie. En une journée, tout peut être détruit.
Côté chypriote turc, à quelques pas de cette buffer zone, devenu un pôle d'attraction pour les militants de la réunification, les bureaux du directeur du journal Africa. Shener Levin, 70 ans, qui a été également candidat aux européennes. Il est menacé de mort tous les jours pour avoir dénoncé, je cite, « l'occupation militaire turque de son pays ». Pour autant, il dit refuser de partir vivre dans le sud, car son combat n'aurait plus de sens. Quand Solzhenitsyn est parti du RSS, sa lutte a perdu toute son intensité, dit-il. Moi, je veux la continuation de l'État chypriote. C'est pour cela que je me suis présenté aux Européens. Les négociations interrompues depuis plus d'un an doivent reprendre incessamment. Le président chypriote grec Anastasiadis et le chef de la communauté chypriote turque se sont réunis pour tenter de dépasser leurs différends. Mais la découverte il y a quelques années de ressources gazières au large de l'île complique les pourparlers. La Turquie refuse à la République de Chypre le droit de les exploiter sans y être associée. La Turquie est puissance garante de Chypre depuis 1960, au même titre que la Grande-Bretagne ou la Grèce. Mais elle est la seule à refuser de quitter le pays en cas de réunification. Pour les Chypriotes grecs, c'est justement là la ligne rouge et c'est le point le plus difficile à surmonter de ces négociations qui devraient reprendre à l'automne.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à Thomas Jacobi, Monika Sieradzka et à nos confrères de la radio Deutschlandfunk pour les sons de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !